Salut, 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 vous êtes bien dans l'émission Au fond près du radiateur, comme tous les mardis soirs de 19h à 20h30 sur l'antenne de Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM en région parisienne et www.rfpp.net partout dans le monde. Voilà, donc nous on a un site internet aussi où vous pouvez retrouver toutes nos émissions, c'est le www.aufondpresduradiateur.fr et surtout on a une adresse email où vous pouvez nous contacter, nous envoyer vos messages, vos infos, vos contre-infos, vos remarques, vos analyses, vos critiques, vos sons, vos textes, plein de choses. C'est au fond près du radiateur, en minuscule, en attaché, sans accent, @no-log.org. Puis dernière info aussi, on est rediffusé le vendredi matin de 7h à 8h30 du mat, pour ceux qui se lèvent tôt, sur la même antenne. Voilà. Donc aujourd'hui, on est en équipe un peu réduite, mais on va quand même présenter les gens qui sont là. Il y a Raph.
Salut.
Il y a moi-même Yano au micro et puis il y a Mathéo qui est Family Beats avec Meto à la technique.
Ouais ouais, bonsoir.
Salut, salut.
Et on fait une grosse bise aux absents, à Mado, à Tifax, à Mouloud et puis aussi une grosse bise aux absents de longue date maintenant, Sarah, Meto, qui sont près de la Méditerranée. Voilà. Aujourd'hui, on va continuer de vous parler d'une lutte dont on vous parle pas mal depuis ces derniers mois. C'est la lutte des ouvriers de PSA à Aulnay-sous-Bois, donc qui sont toujours en grève illimitée et reconductible et qui occupent les ateliers tant qu'ils peuvent. On reviendra un peu sur l'état de la lutte, sur l'actu un peu. Et puis, on vous repassera quand même pas mal de sons chronologiquement depuis donc la semaine dernière, hein, où on avait déjà quand même commencé à vous passer pas mal de sons là-dessus. Donc, on va beaucoup parler de ça dans l'émission. On va aussi parler de ce qui se passait ce matin donc au siège de l'entreprise Goodyear, donc à Rueil-Malmaison, il y avait un rassemblement Convergence des luttes, donc appelé par les ouvriers de Goodyear en lutte contre leur licenciement et donc à converger avec d'autres ouvriers en lutte. Donc il y avait aussi ceux de PSA qui étaient présents et on avait pas mal d'autres, ArcelorMittal et plein d'autres gens qui luttent dans leur usine en ce moment, qui étaient à ce rendez-vous-là ce matin. Donc on va pouvoir vous diffuser aussi un petit peu de son qui a été pris ce matin, notamment concernant, encore une fois, bah, PSA Aulnay, mais aussi ArcelorMittal. On vous fera un point là-dessus dans le courant de l'émission. Et puis en fin d'émission, on passera à un autre sujet. Donc on verra, il y a un invité qui va venir. On parlera du journal CQFD. Alors, ça peut avoir plein de significations. Peut-être ce qu'il faut détruire nous correspond le mieux.
Ce qu'il faut découvrir.
Ou ce qu'il faut dire. Il y a plein de choses. Hein. Bref, c'est un journal que vous connaissez sans doute. CQFD, c'est dans pas mal de kiosques à travers la France. C'est un journal vraiment critique, un journal de contre-information. En tout cas, on a plaisir à le lire individuellement, à y être abonné aussi pour certains d'entre nous. Donc, ils sont un peu dans la merde, même beaucoup dans la merde en ce moment, financièrement, hein, comme un peu comme notre radio d'ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'aussi, il faut qu'on fasse convergence des luttes et qu'on a invité un camarade de CQFD dans notre émission pour nous expliquer un peu la situation que connaît ce journal. On y reviendra donc en fin d'émission. Voilà, on va écouter un petit peu de musique tout de suite au fond près du radiateur. On revient tout de suite après ça.
All them saddest bound in jail wouldn't let nobody go their bail. Keep your eye on the prize and hold on. Hold on. Hold on, keep your eyes on the prize and hold on. All the silence began to shout, jail doors are open and they walked out. Keep your eyes on the prize and hold on. Hold on, hold on. Of chain, every link to freedom name. Keep your eyes on the prize and hold on. Hold on, yeah, hold on. Keep your eyes on the prize and hold on.
on the prize and hold on. Hold on. Hold on. Oh, keep your eyes on the prize and hold on. Only thing we did right was the day we began to fight. Keep your eyes on the prize and hold on. Hold on. Hold on. Keep your eyes on the prize and hold on. Well, I got my hand on the freedom plow. Wouldn't take nothing for my journey now. Keep your eyes on the prize.
Vous êtes de retour dans l'émission Au fond près du radiateur, comme tous les mardis soirs, 19-20h30 sur l'antenne de fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. On vient de s'écouter Barbara Dame, le son c'est Hold On, et donc un petit blues pour commencer cette émission, ça fait toujours plaisir. Voilà, on va tout de suite commencer donc en continuant de vous parler de la lutte des ouvriers de PSA Aulnay, donc qui rentre dans sa quatrième semaine, hein, cette semaine, c'est ça, on faisait un peu l'état ce constat-là quand même, pour dire que bah, déjà ça tient, en tout cas, c'est déjà une chose, malgré toutes les pressions qui peuvent venir de la direction, de l'État, de tout un tas de gens qui ne veulent pas voir ces gens-là lutter, en tout cas, c'est quand même voilà, quelque chose de dur à tenir. 4 semaines de grève reconductible, illimitée, c'est, ben, nous, on dit bravo, hein, on dit continuez, ne lâchez rien. Ce qu'il faut savoir, donc on vous a déjà pas mal expliqué un peu donc le contexte très tendu à l'intérieur des ateliers quand ceux-ci étaient occupés, à savoir des lignes de cadres donc en gilet jaune, hein, pour dire que vraiment c'est des jaunes qui tiennent le pied de guerre devant les grévistes, donc une situation très très tendue à l'intérieur de l'usine. Maintenant, on sait que voilà, il y a une grande solidarité aussi qui a pu se développer autour de cette lutte, qui a pris plein de formes différentes, notamment celle d'une caisse de grève qui a été alimentée par tout un tas de gens, de collectifs, d'assos, même de partis politiques, d'individus. On ne les citera pas tous, mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a presque voilà, plus d'une centaine de milliers d'euros dedans. Donc ça permet aussi de voir que financièrement, ces grévistes sont soutenus, même si c'est sûr que voilà, ça sera très vite réparti comme petit pécule pour ceux qui ont fait grève, et ça représente quand même pas grand-chose au final.
Ouais, voilà, parce qu'il y a à peu près 400-500 grévistes par jour, quoi, et du coup, il disait qu'il faudrait à peu près 300 000 euros pour être bien, quoi, pour amortir les salaires et permettre de continuer la lutte, quoi.
Voilà, donc ça nous donne aussi un réel aperçu de ce que c'est que la réalité d'une grève quand on est ouvrier à Aulnay-sous-Bois, à savoir qu'on joue beaucoup de choses dans une situation telle que celle-ci. Souvent, voilà, y a une famille qui est derrière, des dettes, des charges, des loyers, tout un tas de choses qui sont difficiles à mettre de côté. Mais donc on voit à quel point, en tout cas, ces ouvriers sont déterminés vu que ils entrent dans la quatrième semaine et puis ces questions-là ne sont toujours pas revenues sur le devant de la table. C'est dire donc à quel point la détermination est du côté des grévistes. Maintenant, un peu les enjeux que nous on avait pu percevoir quand on était allé devant l'usine, c'était que voilà, la direction cherchait à tout prix à diviser les grévistes, à faire en sorte qu'il y en a qui soient mis à pied, licenciés, peut-être même condamnés par la justice. Donc en tapant un peu sur, entre guillemets, les leaders ou ceux qui ouvrent beaucoup leur gueule, notamment des délégués syndicaux qui prennent beaucoup part à la grève. On avait appris qu'il y avait plusieurs ouvriers qui étaient carrément sous la menace d'un licenciement de la boîte, voire même plus, une procédure judiciaire. On avait eu le chiffre de 5. Maintenant, on est sûr aujourd'hui qu'il y en a au moins 6. Il peut s'avérer enfin, qu'il y en ait 7 ou 8, peut-être même plus dans les prochains jours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la direction cherche à batailler de ce côté-là, c'est-à-dire à attaquer individuellement des gens alors qu'on se trouve dans un mouvement collectif où finalement... Malgré toutes les stratégies syndicales qu'il y a pu avoir, on a pu vous le décrire dans cette émission, il y a une forme d'union quand même qui s'est créée autour de ce blocage, de ces AG de grève et de cette occupation. Donc on va continuer de suivre quand même à quel point, à quel degré la direction essaiera de casser cette grève à tout prix. On a vu aussi avec l'arrivée de ces vigiles en masse qui surveillent les entrées de la boîte. Bref, toutes ces manigances qui sont en plus illégales dans le droit français ont été dénoncées par les grévistes. Il y a eu des procédures judiciaires lancées contre les agissements des vigiles, contre même le plan de licenciement lui-même, ce qu'on appelle aujourd'hui un plan de sauvegarde de l'emploi, hein, ce qu'on appelle, voilà, même les mots ont changé, c'est PSE, plan de sauvegarde de l'emploi, ça veut dire qu'on vous vire tous.
Ouais, puis on voit dans l'action aussi, il y a des syndicats qui parlaient beaucoup, notamment le SIA qui disait qu'ils étaient contre la fermeture de l'usine ou des choses comme ça. Et on voit dans l'action, quand on est au pied du mur, on voit dans les faits comment la vraie nature des gens, quoi. Donc il y a le SIA, ce syndicat-là, là. La CFTC, la CGC, FO qui ont appelé à reprendre le travail en disant que si la grève continuait, l'usine risquait de fermer en fait, alors que la grève, qu'ils allaient mettre en difficulté la boîte et que l'usine allait fermer, alors qu'en fait les gens font grève contre la fermeture de la boîte, donc c'est assez absurde. Et aujourd'hui, il y a même le délégué de la CFTC de Aulnay qui a fait une tribune dans Le Monde en disant que les gens se trompaient de combat et qu'il fallait vite reprendre le travail pour empêcher la fermeture de l'usine. Donc des choses complètement absurdes, quoi. Des syndicats qui sont opposés à la grève, on ne sait pas. Enfin, c'est des syndicats d'accompagnement, quoi.
Voilà, ouais. Et puis faut noter quand même, pour ceux qui prennent un peu aussi de cours cette émission, voire la lutte aussi qui joue à PSA Aulnay, que dans cette usine, dans le groupe PSA, il y a un syndicat maison, hein, ce qui est quand même à noter assez rare comparé à d'autres boîtes où c'est logiquement plutôt la CGT qui est le syndicat majoritaire pour qu'il y ait quand même malgré tout un semblant de rapport de force. Là, dans cette boîte, c'est quand même le SIA, donc c'est un syndicat créé par la direction envers les salariés, mais donc qui va presque toujours, même toujours dans le sens de la direction et qui est très magouilleur dans ce sens-là, qui est majoritaire sur le site d'Aulnay. Donc c'est vrai que ça pose aussi tout un tas de questions. On sait aussi que l'historique de ce syndicat est très lié avec divers groupes d'extrême droite. On en avait déjà parlé dans notre émission. Vous pouvez aller les consulter sur notre site pour se référer à ce syndicat. Il y a même des sons et des témoignages d'ouvriers en lutte qui ont pas mal de choses à dire là-dessus.
Oui, il y a un bouquin qui a été écrit, même une enquête qui avait été menée par la CGT, ça date un peu, ça a été écrit en 77, c'est une enquête qui s'appelle Les truands du patronat et qui dit qui sont les gens de... Ça s'appelait la Confédération française du travail à l'origine, ensuite ça s'appelait la CSL, ça a changé plusieurs fois de nom, maintenant c'est le SIA-GSEA. Donc voilà, on en a pas mal parlé, mais dans ce bouquin-là, on voit bien que c'est des anciens du service d'action civique, qui est une milice gaulliste, proche de l'extrême droite, de Pasqua aussi, qui, en fait, c'était ces gens-là qui étaient à la tête du SIA. Et en fait, il y avait des allers-retours entre la direction, la police et la CFT, la CSL. Ils alimentaient des fichiers sur les militants syndicaux ou de la CGT à l'époque, quoi. Et il y a eu des agressions de piquets de grève, ils attaquaient les piquets de grève, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, c'est les cadres de la direction qui le font, quoi.
Ouais, c'est juste pour rappeler aussi qu'en effet, sur la dernière mobilisation qui a eu lieu, au départ à Aulnay en 82, c'était justement une des principales revendications du mouvement de 82, c'était les libertés syndicales contre justement l'adhésion obligatoire en fait à la CSL sous peine justement de brimades quotidiennes, de changements de poste en permanence et de toute l'intimidation qu'on peut connaître dans ces contextes-là, quoi.
Voilà, donc un long historique quand même pour ce syndicat qui s'appelle aujourd'hui SIA. Donc on vous conseille de peut-être de lire ce bouquin quand même qui donne pas mal de billes pour comprendre aussi encore actuellement ce qui se joue à Aulnay. Et puis, bah, nous, on va passer quand même au son qu'on avait prévu de vous diffuser. Il se trouve que la semaine dernière, donc mardi dernier, mardi 5 février 2013, il y avait un meeting en début d'après-midi organisé par les ouvriers en lutte devant le parking de l'usine de PSA d'Aulnay. Il y avait pas mal de gens qui ont pris la parole. On vous avait déjà pas mal diffusé du son qui venait de là-bas. Simplement, on va reprendre chronologiquement. Au mardi 5 février, on avait interviewé Mimoun. Donc, on n'avait pas pu vous passer cette interview la semaine dernière. On va vous la passer cette semaine. C'est un peu au 5 février, l'état actuel de la grève à Aulnay et un peu la situation des gens qui sont mis à pied. On écoute ça tout de suite.
Tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé depuis lundi, là, depuis hier en fait, la reprise, est-ce que l'occupation elle continue toujours?
Bah écoute, l'occupation elle est toujours là, on est toujours, la ligne elle tourne pas, tout est bloqué. Bah, la direction elle a arrêté de, on va dire plus ou moins les petites pressions, les petites machins, mais il y a toujours les sanctions, les menaces de licenciement qui concernent encore les camarades.
Les 5 là.
Les 5, voilà. Mais maintenant, le seul truc c'est qui est bien, c'est qu'il y a une plus grosse mobilisation. Les salariés qui étaient en arrêt sont venus et maintenant ils sont avec nous à la grève. Donc pour le moment ça continue, on se renforce et on essaie de prendre un peu de force et pouvoir faire avec le comité de grève des actions.
Et c'est quoi les suites un peu avec les camarades qui sont fait inculpés, ouais,
Pour l'instant, on n'a pas encore de suite, tu vois, on n'a pas encore de retour par rapport à ça. Là, ils ont bien vu qu'on était soudés, qu'on était mobilisés. Tout à l'heure, ce matin, il y a eu un camarade du ferrage, Julien, qui s'est fait, qui a convoqué pour un entretien préalable à un licenciement, l'a accompagné. On était plus de 300 à se mobiliser pour lui. Et donc là, la direction, elle a bien vu qu'on lâchera rien et que pour l'instant, on n'a toujours pas de retour par rapport à ces sanctions-là. Donc on va se continuer à se battre jusqu'au bout.
Et dis-moi, les 5, là, ils sont inculpés de quoi?
Écoutez, comme d'habitude, c'est les huissiers, ils sont là et les huissiers, ils sont payés par qui? Par PSA. Et donc, ils sont prêts à dire n'importe quel discours pour pouvoir attaquer les salariés. En plus de ça, les faits sur lequel ils attaquent ces salariés, c'est une journée de vendredi, et c'était vendredi, vous savez, juste avant qu'il y a eu le block-out de la direction. Donc principalement il n'y avait personne dans le site, parce que quand ils disent qu'il n'y avait pas de travail, donc dans l'usine il n'y avait personne. Et comment ça se fait cette journée là l'huissier s'est fait attaquer la journée où il n'y avait personne au boulot? Donc voilà, donc c'est un mensonge encore une fois de la direction pour essayer de casser le mouvement et d'essayer de diviser les salariés. Parce que maintenant, certes, avec les infos, tout ça, les médias qui sont en train de dire « Oui, faites attention, il y a des casseurs. » Et le syndicat maison qui continue à nous enfoncer en disant que « Ouais, ils ont peur. » Alors qu'ils envoient leurs militants, délégués, pardon, dans les radios pour se faire passer pour des salariés qui sont menacés par les victimes. Alors que c'est là qu'on voit vraiment le mensonge.
Et les cinq qui sont désignés, c'est quoi? C'est cinq responsables syndicaux.
Il y a quatre responsables syndicaux et un qui est simplement adhérent.
D'accord.
Donc voilà.
CGT,
oui.
D'accord.
CGT.
Ça se passe comment l'occupation à l'intérieur? Parce que même Karine, elle nous disait qu'ils vous ont coupé le chauffage. Tout ça.
Oui, ils ont coupé. C'est pour ça que je disais, ils ont un peu lâché. C'est-à-dire qu'on, parce que pour nous, la pression, c'était quand ils avançaient les lignes. Parce qu'il y avait certains grévistes qui n'appréciaient pas. Bah, ils sont en grève et qui voient les lignes tourner, donc ils n'aiment pas ça. Donc la direction faisait un peu comme de la provocation. Donc c'est pour ça que là, ils ont commencé à arrêter de faire avancer les lignes. Et ce qui fait que là, ils ont bloqué, ils ont les électriques, enfin tout ce qui est électrique, chauffage et tout, ils ont tout arrêté.
D'accord.
Donc c'est un block out, mais nous on est à l'intérieur.
Ouais, vous continuez, vous lâchez
rien. On lâche rien, on ira jusqu'au bout. Pour sauver nos emplois, notre gagne-pain et sauver notre usine. On va pas la laisser tomber cette usine.
T'as une sale ambiance là, parce que porte 1, porte 6, dès 11h du mat, t'as les mecs en noir là, des vigiles, c'est ça hein?
C'est des vigiles payés par PSA. En plus de ça, ils sont hors la loi parce qu'ils empêchent les salariés de venir. Ouais, eux-mêmes, ils disent oui, on est là pour assurer la sécurité des salariés. Nous-mêmes, quand on veut rentrer dans l'usine, on est fliqué. Limite, on est fouillé, on nous fouille notre voiture. Je savais pas qu'ils étaient policiers. Nous, maintenant, il y a une procédure judiciaire qui est en cours contre PSA pour ces faits qui... Ils sont hors la loi, ils n'ont pas le droit de nous fouiller, ils n'ont pas le droit de nous empêcher de rentrer dans l'usine. Ils n'ont pas le droit d'empêcher. Ils disent que c'est nous qui empêchons les gens de travailler. Et ben les gens, quand ils veulent venir travailler, ceux qui veulent venir travailler, on les empêche par les visiles. Alors faut pas dire, voilà, faut trouver vraiment, faut pas nous prendre pour des hamad.
Et j'ai entendu, il se passe des trucs un peu à Poissy aussi.
Bah à Poissy, il y a des salariés qui sont venus nous soutenir. Il y a certains salariés qui sont rentrés avec nous, qui sont dans l'usine et qui nous soutiennent.
Voilà,
la personne là-bas qui est dans les barrières. Je sais pas si tu les vois, bah lui, la plupart sont de Poissy. Bonjour, salut, merci, je t'en prie. Varie aux choses. Donc voilà, on est mobilisés, on ira jusqu'au bout.
Voilà, vous êtes de retour dans l'émission Au fond près du radiateur. On vient d'écouter donc le témoignage de Mimoun, c'était le 5 février dernier devant l'usine, juste avant le meeting et la prise de parole de tout un tas de gens. Et donc voilà, ça donne quand même un état d'esprit un peu de la lutte à Aulnay. Ça permet aussi de suivre un peu chronologiquement voilà, les faits pour qu'il y ait une trace aussi, non seulement bah, pour ceux qui écoutent cette émission, les auditeurs, mais aussi pour ceux qui luttent. Voilà, c'est bien aussi que cette parole puisse rester et autant que la parole dominante reste, on essaye aussi de faire contrepoids là-dessus de temps en temps quand on peut. On va s'écouter un peu de musique au fond près du radiateur, on revient tout de suite après et on continuera de parler de la lutte des ouvriers de PSA Aulnay.
Tu me connais depuis longtemps, tu sais ce que je fais pour vivre.
Et comme le chômage m'installe sans dire pardon, leurs stocks d'or sont répartis depuis longtemps. Pour nous c'est toujours le charbon. Port du casque obligatoire parmi la population. Tout dans le rouge quand tu m'écoutes, tu comprendras ma vision. Les caillasses pleuvent à n'importe quelle saison. Dans la révolution passera pas par la télévision. Un seul test antidopage sur leur plateau et c'est la fin d'Oli. Ou de leur cerveau n'ont plus de budget pour réfléchir, c'est la poule. Le grand moins marin veut se sentir plus belle. À la marabout j'écris, toujours pas le bout du tunnel. Ici les petits frères, les petites sœurs sont tellement vénères. Ils veulent des grosses lasses de pieds violets, attège en l'air. C'est quoi ma réalité? Un pote en cage, un gosse à charge, quelques stages pour trouver du taf, la vingtaine même pas mariée. C'est la merde, pour s'en sortir aucun plan détaillé. Rien ne va plus, les jeux sont faits, tout le monde pense plus qu'à tailler. Ne baisse jamais les bras face à l'adversité. Prends exemple sur chaque Azulu, Kunta Kinte. Lève ton poing comme Mandela, combat pour ta liberté. Lève ta bâton pour tes droits comme Bob Marley l'aurait fait. Ne baisse jamais les bras face à l'adversité. Prends exemple sur chaque Azulu, Kunta Kinte. Lève ton poing comme Mandela, combat pour ta liberté. Et lève ta bâton pour tes droits comme Bob Marley l'aurait fait. C'est la démocratie dehors, pour certains le soleil brille plus. Y'en a qui croient plus en rien, y'en a d'autres qui prient plus. Certains se contentent de peu, ou de presque plus. Quand la ville pleure plus, je la contemple et j'écris plus. Vu que les pacifiques sont trop passifs et le marché actif trop raciste au bord du risque. Je suis Mario stress avec la rue pour maîtresse. Mon coin c'est le niveau moins un, loin des opportunistes et des traîtres. Là où les tours poussent, j'attends pas de coup de pouce. Vu qu'ici c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Depuis que les portes ferment, aux portes feuilles vides. Mes potes partent pour les portes de l'extrême vive. Mes peurs viennent libres dans cette démocratie où il y a autant de bâtards dans les rues que de bâtons dans les roues. Est-ce le poids de la vie active qui laisse la jeunesse à genoux? Mais qu'est-ce qui laisse la jeunesse à genoux? Ne baisse jamais les bras face à l'adversité. Prends exemple sur Chaka Zulu, Kunta Kinte. Lève ton poing comme Mandela, combat pour ta liberté. Lève ta bâton pour tes droits comme Bob Marley l'aurait fait. Ne baisse jamais les bras face à l'adversité. Prends exemple sur Chaka Zulu, Kunta Kinte. Lève ton poing comme Mandela, combat pour ta liberté. Et lève ta bâton pour tes droits comme Bob Marley l'aurait fait. Ursa Major qui la bise. On te met la vérité en face. Tu peux crier Mayday, 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 Mayday. De Spi Gonzalez et Ville Chiro. Tu peux crier Mayday, 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 Mayday.
Voilà, vous êtes de retour sur FPP 106.3, c'est l'émission Au fond près du radiateur, tous les mardis soirs de 19h à 20h30. rediffusé le vendredi matin si vous levez tôt, de 7h à 8h30 du mat. Voilà, donc on vient de s'écouter un son qui est sur la compile de Ursa Major qui s'appelle La Vérité en Face, et c'était Ne baisse jamais les bras, de, et c'était Mayday qui chantait. Voilà, donc on va écouter un autre son de, qui a été pris jeudi dernier, c'était le 7.
Le 7 février
ouais,
dernier.
Le 7 février, à l'usine de PSA Aulnay pendant la troisième semaine de grève. On est aujourd'hui à la quatrième semaine de grève. Et donc c'est encore un son avec Mimoun qui... voilà, qui continue à parler de ce qui se passe là-bas, quoi.
De ce qui se passe, et puis aussi on a l'occasion d'entendre le témoignage du sixième mis à pied par la direction, donc gréviste mis à pied par la direction. On aura l'occasion d'écouter ce son. Juste avant de dire que quand même ce jour-là, il a été particulièrement difficile d'accéder au site d'Aulnay, que la pression s'était vraiment resserrée sur les grévistes, et que c'était quand même une des seules fois depuis le début de la grève où on a vraiment, on n'est vraiment pas rentré à l'intérieur de l'usine parce que c'était chaud, quoi. Il y avait énormément de cadres qui étaient dedans, là, visiblement, et c'est, ça, voilà, l'ambiance était encore montée d'un cran, quoi.
Et d'ailleurs, il y a vendredi dernier, c'était le 8, du coup, le lendemain du son qu'on va écouter là, il y a un cadre qui a agressé un. Donc les cadres, en fait, ils sont là pour faire un travail de sécurité, quoi. Ils servent de vigile à l'intérieur de la boîte, vu que les vigiles privés employés par la direction ne peuvent pas rentrer à l'intérieur. Et donc il y a un cadre qui a agressé un gréviste, et donc il a eu 3 jours de mise à pied aussi. Mais voilà, ça reflète la tension qu'il y a là-bas et qui est du fait de la direction, quoi.
En tout cas, on écoute le son et on revient tout de suite après au fond près du radiateur.
En fait, tu t'appelles comment ?
Azario Najib.
Et donc tu fais partie des gens qui ont été convoqués en fait pour un entretien préalable de licenciement par la direction.
Par la direction. PSA. Ouais, c'est ça. Ouais. Je suis le sixième personne convoquée. Ouais. Okay. Donc j'ai un rendez-vous mardi prochain pour savoir qu'est-ce que me reproche.
Et c'est quoi en fait les. T'es accusé de quoi?
Franchement là, je sais pas. Là ils disent pas dans la lettre. Donc là je suis convoqué mardi pour savoir déjà qu'est-ce que me reproche. Ouais.
Et vous avez eu des nouvelles pour les autres 5 personnes qui ont été convoquées?
Non, juste il y a 4, ils sont passés mardi. Le 5e il passe aujourd'hui à 17h, donc moi je passerai mardi. Donc là, toujours pas de nouvelles.
Et ceux qui sont passés mardi, qu'est-ce qu'on leur a reproché?
Comme d'habitude, comme quoi des violences sur un dossier de justice, voilà quoi. Toujours les mêmes histoires.
En fait, il s'est pas passé grand-chose.
Non,
c'est
non.
Eux, la direction, ils disent ça, quoi. Mais
c'est la direction qu'ils accusent des grévistes, donc c'est leur seul moyen pour mettre la pression sur tout le monde. Ils accusent 4 personnes d'attaquer un huissier de justice et de taper derrière la tête, le machin. Mais le problème, Lucie, lundi, il était là, donc s'ils l'ont vraiment tapé, il serait jamais là. Il serait à l'hôpital.
Excusez-moi, moi j'interviens. Faut être con pour pas. Comment ça? Il y a 5 personnes qui tapent un huissier de justice par derrière, des coups de pompe, des coups des droites et des gauches, soi-disant des coups de tête ou je sais pas ce qu'ils ont dit, d'autres. Et l'huissier, il est resté intact. Voilà, peut-être c'est des poupées qui l'ont tapé. Hein. Ou c'est des marionnettes, je comprends pas. Ça veut dire, maintenant, plus c'est gros et plus ça passe. C'est un gros mensonge de la part de la direction qui veut dire, tellement elle est en panique, sa production, elle bouge pas. Et tellement qu'on est en train de faire, on est en train de faire en sorte que on essaie de faire PSA, Goodyear, Renault, on essaie de converger nos luttes pour qu'on se barre tous ensemble pour le même but, pour garder nos usines. Et bien ça les dérange. Et bien c'est pour ça qu'ils attaquent les militants. Là, il y a 6 militants, c'est des militants CGT et des syndiqués CGT. Pourquoi? Parce que c'est des militants, parce qu'ils se mettent en avant, qu'ils organisent, qu'ils font les choses, qu'ils essaient d'organiser les choses. Voilà, ils essaient de nous faire passer pour des voyous, pour des casseurs. C'est pas nous les casseurs, on a un slogan maintenant. Nous, on est des ouvriers. Les vrais casseurs, c'est les patrons. Voilà.
Ce qu'ils sont en train de faire, la direction, c'est, ça l'a en défaveur. Parce que ce qu'ils sont en train de se passer, le fait qu'ils bloquent les journalistes alors qu'ils avaient fait une journée porte ouverte, le fait qu'ils empêchent les salariés de... Enfin, on les fliquait, carrément. Pire que
pire que dans une douane.
C'est ça, parce qu'on l'a pas expliqué, mais là, en fait, c'est en plus des vigiles privés, donc la boîte, elle a appelé, on sait que c'est illégal de ramener des vigiles privés pendant un conflit du travail, mais ils le font quand même. Mm-hmm. Et en plus de ça, il y a tous les cadres là, en gilet jaune qui empêchent les gens de rentrer là.
Oui, et en plus de ça, c'est même pas leur fonction. Leur fonction, c'est d'être dans les bureaux, mais pas d'être dehors en train de fliquer. Déjà, ils sont hors la loi, ils sont même pas. On a contacté l'inspecteur du travail par rapport à ça. Et c'est condamnable.
Même par rapport au vigile ou par rapport au cadre?
Par rapport au cadre qui surveille. Et les vigiles encore. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'être là. Ils n'ont
pas le droit entre temps.
Non, exactement. Mais ils continuent. Ils sont hors la loi. PSA, ils s'en foutent. Ils sont hors la loi. Quand ça les arrange, ils condamnent. Quand ça les arrange, ils condamnent. Et ils ne condamnent pas. Et quand ça les arrange pas, ils condamnent. Donc c'est ça. Le fait, qu'est-ce qui se passe là maintenant en train de nous faire comme dans. Comme si vous allez dans un autre bled. Regardez, c'est une frontière là-bas. Montrez-nous votre carte de service si vous faites partie d'usine. Pourquoi ? En fait, l'objectif, qu'est-ce qu'ils disent officiellement ? C'est pour empêcher les journalistes de rentrer. Pourquoi ? Empêcher, c'est quoi ça ? Pourquoi on ne veut pas la liberté d'expression ? La liberté de droit ? C'est pas normal.
En plus, je crois que vous l'avez voté en AG.
On a voté qu'il y allait avoir le droit des journalistes, de la presse, tout ça, qui peuvent rentrer. C'est pas normal qu'on les empêche. Pourquoi ? Parce qu'ils ont plein de choses à cacher. Il n'y a pas qu'une petite chose. Ils vous ont montré pendant les premiers jours, regardez, ils ont cru qu'on allait tout péter, machin et coup. Et tout, la preuve, ça s'est bien passé. Les grévistes ont été clean jusqu'au bout. Et comme ça a été depuis le premier jour de la grève. Eux, ils ont essayé d'imaginer des scénarios. Ils ont fait des scénarios bidons pendant la semaine du block-out. Ils ont bloqué la chaîne pendant... Enfin, ils nous ont mis en chômage pendant une semaine. Pour faire quoi ? Pour faire taguer des machines, casser des trucs, pour dire, regardez, c'est les grévistes qui ont fait ça. Non, non, nous, on condamne fermement ces agissements de la direction. Et de toute façon, une fois que la direction et le gouvernement, une fois que les médias, les gouvernements, tout ça, on voit la réalité... J'espère franchement de tout cœur que la vérité va éclater, que la fermeture du site va être annulée, parce que nous, on a déjà, comme je vous ai déjà dit, on a mis un avocat en œuvre. Donc, voilà. Pour la fin, on se battra jusqu'au bout.
Là, on est le 7 février, ça fait combien de temps ? Ça fait presque 3 semaines, là.
Ça va faire, en fait, officiellement, ça va faire 17 jours de grève. Voilà, okay. On est en grève, 17 jours.
Il n'y a toujours pas de voiture qui sort.
Toujours pas de voiture qui sort. De toute façon, des fois, la direction, elle essaie d'avancer les lignes, mais avec les responsables qui... Voilà, toutes les voitures qui sortent, c'est des voitures qu'il faut qu'ils aillent en retouche. Elles sont invendables. Donc voilà. Donc, pour l'instant, nous, l'usine, elle est bloquée. Rien ne tourne. Nous, on est là, on fait notre grève. On se battra jusqu'au bout. Tant qu'il y aura une réelle négociation autour d'une table sérieuse. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et on soutient les camarades qui sont menacés de licenciement. On est là avec eux. On se battra avec eux jusqu'au bout. Parce que le fait de vouloir s'attaquer à des personnes X ou Y, voilà, c'est pour essayer de diminuer l'effectif. Mais au contraire, ça est en train d'agrandir la force. Parce qu'à chaque fois qu'ils s'attaquent à quelqu'un, on grandit. Parce que là, la direction, elle veut faire quoi ? Diminuer. En fait, ils veulent nous diviser. Mais ça ne marchera pas. Nous, on est unis jusqu'au bout.
Donc ça continue la grève.
Ça continue jusqu'au bout la grève. La grève elle s'arrête pas. Elle s'arrêtera jusqu'à que les salariés ont décidé les réelles solutions pour les salariés.
Et juste par rapport, je crois suite vous avez initié une action en justice en plus contre la direction de PSA, contre le plan de licenciement en fait, le PSE.
Ben oui, le syndicat Sud a fait appel à un avocat. On va aller en justice. On va empêcher que la fermeture du site soit voilà. On condamne ça. On condamne les agissements de la direction qui est des actionnaires, enfin de ceux qui ont décidé que l'usine de Dolnay devait fermer. Parce que, voilà, on sait très bien qu'il y a des solutions d'empêcher cette fermeture et que la meilleure solution, eux, ils préfèrent ne pas la voir, de mettre des ER pour ne pas voir. Ça, c'est facile. Au lieu de vraiment se mettre autour d'une table, parce que nous, on a décidé depuis longtemps que, voilà, il est hors de question de se sacrifier pour PSA. On ne se sacrifiera pas. Nous, on n'est pas des bétails. On n'est pas des... Voilà. Nous, on se battra jusqu'au bout. On a une famille derrière. Et il faudra... Voilà, on se battra jusqu'à la fin. On est déterminés.
On est de retour dans l'émission Au fond près du radiateur, 106.3 FM, comme tous les mardis soirs, 19-20h30. On vient de s'écouter donc un petit entretien qui a été réalisé donc le 7 février dernier, jeudi 7 février dernier, devant l'usine. Donc on a notamment entendu Mimoun sur la fin. Voilà, c'est important de le redire, de suivre aussi chronologiquement cette lutte pour laisser une trace et aussi nous-mêmes essayer d'un peu de comprendre les enjeux. On va passer maintenant, donc toujours dans la chronologie, à ce qui s'est passé aujourd'hui. C'était donc un gros rassemblement convergence des luttes, on va dire ça, qui voilà, qui était appelé par les mille de Goodyear qui sont menacés de licenciement maintenant depuis 5 ans, plus de 5 ans qui luttent. En tout cas, le dialogue est toujours bloqué avec l'entreprise. Enfin bref, une situation à s'en tirer les cheveux. Ils appelaient donc à mettre la pression devant le siège de leur boîte qui est à Rueil-Malmaison ce matin, et puis aussi appeler les autres salariés qui luttent en ce moment dans leurs usines de converger, et donc peut-être de se retrouver sur ce type d'action, et même à l'avenir ça pourra être une modalité qui sera envisagée. On va s'écouter, donc on remercie quand même d'abord Joël qui a pu se rendre ce matin devant le siège de Goodyear, parce que nous-mêmes on n'a pas pu y aller. Et donc il a pu prendre du son et nous le gentiment nous le donner pour notre émission. À savoir que donc dans l'émission Zéro Hebdo de 20h30 à 21h30, vous aurez donc la possibilité d'entendre complètement l'intervention de Michael Wamen, un délégué CGT de Goodyear, donc qui reviendra un peu sur la situation de la boîte et sur ce qui s'est passé ce matin, ce qui se passe depuis des mois pour eux. Nous, on va surtout aborder encore la question des ouvriers de PSA, puisqu'il y avait une partie des grévistes qui sont rendus là-bas sur place ce matin. On va notamment écouter un premier son avec Agathe, en fait, qui est une des personnes aussi mises à pied, qui explique bien un peu tout le parcours qu'elle a dû effectuer depuis l'annonce de sa mise à pied par la direction. On écoute ça tout de suite au fond près du radiateur.
Alors donc on est toujours à Rueil-Malmaison, on est devant le siège de Goodyear et je suis avec Agathe.
Voilà.
Bonjour à toi.
Bonjour.
Donc tu es l'une des personnes qui a été mise à pied. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé ?
Bah, j'ai été d'abord convoquée à la Sûreté territoriale par le gouvernement. Oui, je travaille à Aulnay, à l'usine Citroën d'Aulnay. Et ensuite, comme ça ne suffisait pas, j'ai été convoquée pour mon licenciement, c'est-à-dire que je suis mise à pied, là, conservatoire, jusqu'à ce que le patron y statue sur mon licenciement.
Comment il est intervenu ce licenciement ? Parce que j'imagine que tu faisais ton travail de salarié, de syndicaliste, peut-être.
Bien sûr, justement, et c'est pour ça que le patron, il licencie 6 d'entre nous parce qu'on fait notre boulot de militants. Et le patron aujourd'hui, bah, il coupe les têtes des militants syndicalistes et des militants de la grève.
Comment ça se passe un petit peu la situation aujourd'hui à PSA Aulnay ?
Eh ben aujourd'hui, on est toujours en grève. On est mobilisé plus que jamais, puisque avec le médiateur là, qui a été nommé provisoirement, on a du boulot à lui faire. Et pour qu'il fasse son boulot, ben, on reste mobilisé et on espère bien que les choses vont avancer un peu là, parce que pour le moment, ça n'avance pas beaucoup.
Donc, votre affaire vous continue par rapport à la demande de mise à pied. Comment toi, tu as accueilli cette demande de mise à pied ?
Bah, c'est la honte pour le gouvernement qui nous fait passer devant la Sûreté territoriale, et c'est la honte pour PSA qui ne respecte aucune loi, qui ne respecte pas le droit de grève, qui ne respecte pas les syndicalistes, qui ne respecte pas les grévistes.
Voilà, c'est pas si.
C'est bon. On s'en va là, on va au siège social de PSA pour voir ce qui se trame dans notre dos.
Parce que qu'est-ce qui se doit, justement, merci de parler de ça tout à l'heure, qu'est-ce qui se doit se décider aujourd'hui au siège social ?
Aujourd'hui, c'est la présentation finale du plan de licenciement, ce qu'ils appellent le plan de sauvegarde de l'emploi. Moi, je n'appelle pas ça un plan de sauvegarde, c'est au contraire 2800 licenciements à Aulnay, 11 000 licenciements sur tout le groupe. Donc aujourd'hui, c'est la présentation terminale de ce PSE. Et bon, on sait ce qu'il y a, ce PSE, il ne nous convient pas. Hein, c'est des licenciements avec 18 000 euros en moyenne pour les salariés d'Aulnay. Bon voilà, moins les 3 mois de chômage, il ne reste plus que 15 000, enfin oui, 15 000, voilà, ça ne suffit pas pour vivre et retrouver un boulot derrière.
Comment ça se fait que ça s'est décidé aussi tard de reprendre les machines en main? Que la grève se soit décidée, enfin, du moins le blocage de la production se soit décidé seulement le 16 janvier, alors que ce plan est connu depuis plus d'un an.
Ben parce que ça fait un an qu'on se bagarre, ça fait un an qu'on essaye d'expliquer que ce PSA ne nous convient pas. Et le patron qui ne veut rien céder, évidemment qu'on est obligé de se mettre en grève totale dans l'usine et d'occuper l'usine. Voilà.
D'accord, ben merci à toi. Bonne route.
Voilà, on vient d'écouter donc un entretien avec Agathe, donc une salariée en lutte de PSA qui est mise à pied par la direction. Voilà, ce qui est sûr avec toute cette histoire, c'est que pour l'instant, on n'en sait pas plus, que ça reste comme une épée de Damoclès un peu sur le dos de 6, 7, 8 personnes, en tout cas attaquées de manière individuelle par la direction, alors qu'on le répète, c'est un mouvement collectif. Il y a aussi des AG pratiquement tous les jours qui se réunissent dans les ateliers occupés. Donc évidemment que les décisions qui sont prises collectivement. Bref, ces pressions-là, on a l'habitude de les dénoncer. Maintenant, il faut avoir en tête que voilà, c'est tous les jours pendant la grève, c'est à chaque fois le moindre détail qui met la pression donc, sur les ouvriers en lutte. Pour ce qui est du cas des mises à pied, voilà, comme je disais, ça reste une épée de Damoclès sur le dos des grévistes, on n'en sait pas plus. Pour l'instant, la direction ne communique pas, à part cette menace de licenciement. Les salariés mis en cause n'ont visiblement plus le droit de rentrer même sur le site de l'usine. Il semblerait même que leur passe aurait été démagnétisé. Donc voilà, affaire à suivre. On essaiera de vous tenir au courant aussi de l'histoire dont on vous a juste parlé avant concernant donc... un camarade gréviste qui serait fait agresser par un cadre envoyé par la direction. On essaiera d'en savoir plus et de continuer à vous diffuser des infos sur la lutte de PSA. Quoi.
Ouais, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, les cadres, ils sont derrière toi chaque fois qu'ils te mettent la pression, chaque fois que tu veux aller parler avec des non-grévistes, par exemple, pour les convaincre de rejoindre la grève ou pour parler avec eux. Quoi. Ils sont à 10 derrière toi et ils sont vraiment là, quoi. Ils sont pour marquer... leur territoire, c'est la direction qui occupe la boîte, quoi.
Ouais, et c'est vrai que c'est difficile à décrire en radio parce qu'on ne peut pas visualiser les choses. En même temps, il faut vraiment s'imaginer que voilà, elle est dure à tenir, cette grève, et qu'on ne lâchera pas, et je pense qu'ils ne lâcheront pas. Nous, on s'écoute un peu de musique. On reviendra après pour évoquer la situation des ouvriers en lutte d'ArcelorMittal et ensuite parler de la situation du journal CQFD. À tout de suite au fond près du radiateur.
Henceforth, step within my psychoanalysis. Calluses upon my mind make me strain for my lines. Out I ripped it, squeezed the brain, it made some liquid. Drained it in a cup and then I sipped it. Atmosphere, the mic, let me clutch it. Thoughts take flight, so fit the slug in your pipe and take a puff, kid. Fuck it, I need it like a teapot. Steam hop upon the roof, shoot a marble with the verbal slingshot. Take aim, here I came, I'm the same. Back in 86, I'd have tagged my name upon your window pane. Stained the mind, a deep shade of residue. Voices within the head make choices multiple. Multiply, spawn, slug a little buzz. In atmosphere, the scuds, cause here comes the judge. Blasted to pass the kid a mic so we can paint this image of the gifted anxious to flip the language. It's the now meltdown from the outer shell. Now smell the burning flesh fresh from the hellbound. And come on down here, this mind path. I'm half mathematic, atmospheric staff with the rhyme craft. Coming to capture your after laughter. While I'm hanging from this rafter, I have to rip this rapture. Cause the cramps in my stomach dismantle when I tamper with your amplifier. Damn, you die. Why try? The sky presents an eternally unfolding spectacle. One moment, puffs of cumulus clouds skitter across it. And the next, a billowing thunderhead, perhaps 10 miles high, looms over the horizon. Probing the structure of the sky. Why try? Why try? Cause I can read an MC from front to back. From the cover to the classified. I pacified my mind with my rhyme skills. The billowing thunderhead, perhaps 10 miles high, looms over the horizon. Probing the structure of the sky. Why try? Why try? Cause I can read an MC from front to back. From the cover to the classified, I pacified my mind with my rhyme skills. I climb hills and leap foolish twits with a single bounce, sending tingles down your spine. Designed to swing and pound this axe, handle tripled inch spike, protruding from the tip of my mic, distributing fucking headshots, shots to your head. Now you need eat, you need sleep as you trudge through the sludge and the slugs and the bird shit. We swarm with the bees and diseases, and even if your DJ was Jesus, you could never fuck with these kids. I swarm with the bees and diseases, and even if your DJ was Jesus, you could never fuck with these kids.
Yeah, motherfucker, you know who you fucking with. You know what kind of ass whooping comes with this. Your whole crew can get some of this. You whack as fuck, this is what the subject is. Roughnecks live for only a second, then they give oblivions. What you stepped in, your reps took it, should have been looking. Sick of you bitch ass crews when you try to take what's not yours, but you couldn't take mine. Your fake rhymes spit them, you shouldn't. What will it be now?
Voilà, vous êtes de retour sur FPP 106.3 FM, radio libre depuis 20 ans maintenant. C'est l'émission Au fond près du radiateur, tous les mardis soirs 19-20h30. On vient de s'écouter un morceau qui du rappeur Atmosphère, et le son c'est 1597. Voilà. On va continuer le reportage qui a été pris ce matin par Joël de l'émission L'Actu des Luttes sur FPP.
Zéro Hebdo aussi.
Zéro Hebdo, juste après nous. Les bras cassés de l'info, Zéro Hebdo. Et du coup, on va écouter le son tout de suite. Donc c'est, ça parle, en fait, c'est toujours le rassemblement devant le siège de Goodyear à Rueil-Malmaison qui avait lieu ce matin, où il y avait aussi des ouvriers d'ArcelorMittal. Donc pareil, c'est un site qui est menacé de fermeture.
Voilà, c'est les aciéries qui sont en lutte, hein, les ouvriers des fonderies en fait même, qui sont en lutte depuis longtemps. On a pu voir pas mal d'images même dans les médias, repris dans les médias bourgeois. Après, c'est vrai que ce que les médias cherchent à montrer, c'est toujours des choses sorties de leur contexte, dénaturées, des images de violence, on comprend pas trop pourquoi. Nous, on a justement pu récupérer cet entretien que Joël a réalisé, où on comprend un peu mieux aussi les raisons de la colère des ouvriers de Goodyear. Ça fait des années qu'ils sont sur le terrain de la lutte, et bah ça nous permet aussi de faire un peu le point sur cette lutte dans l'émission. On écoute ça tout de suite.
Eh bien, on est toujours donc à Rueil-Malmaison, devant le siège de Goodyear. Et il y a cette manifestation et rassemblement. Donc, et je suis avec un salarié de Flange, donc à ArcelorMittal. Déjà, comment ça se passe à Flange actuellement?
On est toujours dans la lutte. On a été manifesté à Strasbourg avec nos copains luxembourgeois et belges, où on a voulu montrer au Parlement européen que le problème ArcelorMittal, c'est pas uniquement Florange. On va fermer Liège, on a fermé des usines en Espagne, on a fermé des hauts fourneaux en Pologne et en Tchécoslovaquie. Donc le problème d'ArcelorMittal, c'est un problème européen. C'est pour ça que la manifestation de Strasbourg était une manifestation européenne.
Donc visiblement, c'est une manifestation qui a été un petit peu plus, on va dire, plus tendue, on va dire ça comme ça. L'accueil, comme ici d'ailleurs, on le voit derrière nous, est assez bleu policier, parce que c'est les mêmes, vous disiez, c'est les mêmes problématiques, puisque là-bas aussi, Mittal veut fermer.
Lui, ce qu'il veut faire, c'est de faire venir des produits de l'Asie, du Mexique, du Brésil, de faire des produits à bas coût. Et enlever tout ce qu'il y a en Europe, quoi. Bon, pour l'instant, il ne peut pas faire tout parce que ça serait la révolution. Mais il fait site par site, pays par pays, quoi. Et là, il vient de nous dire qu'il ne voulait plus fermer d'usine. Ça y est, que c'était fini, les restructurations. Personne n'y croit, quoi. On sait bien. Par exemple, je prends un exemple à Bettembourg, au Luxembourg. En pleine nuit, il a démonté des moteurs. Il a fait venir des camions. On parle toujours de patrons voyous. C'est une attitude qui n'est pas normale, quoi. Il y a des instances représentatives, on discute et puis à partir de là on négocie, on trouve des accords, et là, mais on a en face de nous quelqu'un qui ne veut pas discuter. Nos dirigeants ne veulent pas discuter, c'est un problème dans un pays. Quand il n'y a plus de dialogue, c'est grave, quoi.
Justement, il n'y a pas de dialogue. Comment vous, ce dialogue, de votre côté, vous arrivez à l'imposer avec la direction ?
Alors, l'imposer, c'est un grand mot, disons qu'à travers les manifestations, c'est surtout du médiatique, quoi. On fait montrer, on montre à la France, on montre à notre région qu'on est en lutte et qu'on a des arguments. Par exemple, je discutais tout à l'heure, on a trois cabinets, Force, Syndex et Secafi, qui nous disent qu'on est une usine viable. À partir de là, on se base sur ces documents-là. Surtout qu'il y en a un qui, c'est un rapport du gouvernement. Donc c'est même pas nous, le syndicat, qui le disons, c'est le gouvernement qui dit que dans son intégralité, le site de Florange est viable. Alors pourquoi on nous ferme notre usine? C'est une question qu'on ne comprend pas.
Comment on peut expliquer, parce que je vois des banderoles, Hollande, tu nous dois une loi et tout ça, comment on peut expliquer ça? Parce qu'on sait très bien, les socialistes en France, dans le passé, on va dire il y a une trentaine d'années, ont été aux affaires, et c'est avec eux que c'est notamment la sidérurgie a été liquidée. Comment on arrive encore à avoir une croyance en ces gouvernements socialistes?
Parce qu'on a eu un gouvernement de droite tellement bas que quand on a une personne qui s'appelle Monsieur Hollande, qui monte sur une camionnette à Florange, qui nous dit, voilà, j'ai une loi, il l'avait dans la main. Tout le monde a cette photo-là, ça passe de temps en temps sur les chaînes. Il avait la loi, il a dit, je suis député, je vais en tant que député, je vais la déposer. Si ça ne marche pas, si je serai président, je la déposerai. Ça fait combien de mois qu'il est président et la loi n'est toujours pas passée? C'est du mensonge, c'est une trahison. Donc à partir de là, les gens nous disent, la gauche, la droite, c'est la même chose, quoi.
Mais quand même, ce qui s'était passé dans la sidérurgie dans les années 80, quand même, ça doit mettre un petit peu la puce à l'oreille, quand même.
Ah ben, y a les anciens, si eux, ils connaissent. Rappelez-vous les combats de Longuil qui ont été très durs. Moi, j'étais très jeune à l'époque, mais je me rappelle qu'il y avait 100 000 sidérurgistes qui sont montés à Paris. À l'époque, il y avait les mineurs, parce qu'on n'a plus de mines non plus, on n'a plus rien. La Lorraine est une région qui crève, qui meurt. Donc à partir de là, le dernier carré des usines qu'on a, on le défend. Et c'est normal. Parce qu'on pense, moi j'ai un certain âge, je pense que je vais finir ma carrière. Mais je pense à des enfants, même dans des banlieues difficiles. Qu'est-ce qu'ils vont trouver comme travail? Ou alors ça sera des travaux comme en Allemagne, à 3-4 euros de l'heure? Non, ça, on ne veut pas de cette société-là.
Justement, en France, il y a ce qui s'est discuté ce mois de janvier 2013 entre les syndicats et le patronat sur le travail. Et quelque part, c'est un petit peu découpé en petits morceaux le code du travail.
L'accord de compétitivité, ouais. C'est extrêmement grave, quoi. Ça veut dire qu'on est à un recul. Si la personne refuse de perdre du salaire, c'est un motif de licenciement. Mais on va où, là? Parce que logiquement... le patron devrait payer son salarié en fonction des compétences, en fonction de son travail, en fonction de la productivité qu'il met en place. Là, on pense même pas à ça. On lui dit, quel que soit ton travail, on va t'enlever du salaire et si t'es pas content, on te licencie. Moi, je suis patron. Je veux dire, c'est pas comme ça que je vais réagir. Je veux dire, moi, ce qu'il me faut, c'est des ouvriers compétents. Et à partir de là, moi, je suis d'accord à faire du profit. Moi, ça me dérange absolument pas qu'une entreprise ait des profits. Mais il faut que ces profits-là soient redistribués correctement.
Ce qui n'est pas
le cas.
Ce n'est pas vraiment le cas.
Moi, je pense, alors c'est mon idée à moi, mais je pense qu'il y a une partie qui doit être liée à des investissements. Ça me paraît tout à fait normal. Qu'il y a une partie qui va au patron, c'est tout à fait normal, c'est son entreprise, mais qu'il y a une partie aussi qui va aux salariés. C'est quand même les salariés qui créent la richesse dans les entreprises. Donc, quelque part, nous, ArcelorMittal, cette année, c'est zéro. On a une usine qui est à moitié, qui est à l'arrêt. On a des suppressions d'emplois. On a des sous-traitants qu'on a éjectés. On a des intérimaires 450 qui ont été éjectés. Et on a 0% d'augmentation de salaire. C'est-à-dire qu'ils nous mettent tout cette année, tout contre nous. Tout pour que vraiment ça pète. Alors pour l'instant, ça pète pas. Il y a un carré qui se bat. Mais moi, je vous dis pas que dans un mois ou deux mois, ArcelorMittal, ça risque de péter. Ça, je ne sais pas. De toute façon, il y a une montée. On le voit bien en France. Il y a une montée du ras-le-bol. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'on est là aujourd'hui, qu'on est tous rassemblés, ça nous fait tous plaisir. Et ça ne peut pas continuer, quoi. Le gouvernement, il faut quand même qu'il fasse quelque chose, quoi.
On peut attendre quelque chose de ce gouvernement, vous croyez?
Alors là, qu'est-ce que je vous dis, joker? Je sais pas, il faut toujours y croire, il faut toujours se battre. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que nous, il faut qu'on mette la pression, c'est clair.
Justement, mettre la pression par rapport à ces fameux, ce fameux accord sur la compétitivité et tout ça. Bon, donc, il y a des syndicats qui ont accepté de signer, d'autres syndicats qui n'ont pas accepté de signer. Mais au-delà d'avoir refusé de signer, il y a peut-être aussi autre chose, c'est de dénoncer plus, peut-être plus clairement et plus durement ce traité. Moi, j'irais même, pourquoi s'être mis autour de la table pour ça ?
Bah écoutez, je ne vais pas faire de polémique parce que le but quand même c'est de faire que tous les syndicats soient réunis. C'est pas évident parce qu'on a quand même des différences. Mais effectivement, il y a trois syndicats qui ont trahi le monde ouvrier, hein, CFDT entre autres. Mais bon, est-ce qu'on est surpris ? Non. On sait d'où vient la CFDT. Regardez Chérec où il a été placé. Regardez dans ce gouvernement de gauche, vous verrez beaucoup de gens qui viennent de la CFDT. Donc pour nous, voilà quoi. Le deuxième de la CFDT, M. Malice, bah, c'était lui qui était ArcelorMittal. Hein. Donc vous voyez, on les connaît ces gens-là.
Il y a quand même donc FO et la CGT qui n'a pas signé. Oui. Mais au-delà du fait de ne pas signer, après, je pense quand même qu'il faut aller un petit peu plus loin.
Bah, aujourd'hui, c'est ça. C'est d'aller plus loin, c'est d'aller dans la lutte, d'être ensemble et puis de faire reculer ce gouvernement. Alors je ne dis pas qu'aujourd'hui on va le faire reculer, là, ce mardi-là on ne le fera pas reculer, mais on met une pierre à l'échafaud. Demain en Lorraine, on est à Metz, bon, ArcelorMittal sera en tête et on va encore mener le combat. On sera des milliers à Metz comme on sera des milliers dans toute la France. Et puis on va essayer de faire monter cette soupe là, et puis de faire en sorte de reculer ce gouvernement. Alors il va falloir qu'on se mette des paquets, qu'on soit des millions dans la rue, parce qu'avec ce gouvernement là c'est pas évident. Hein. Trois collègues qui ont été menottés. On arrive à Strasbourg, à peine arrivé à Strasbourg, on a eu les gaz lacrymogènes, on a eu les flashballs, et c'est même pas des flashballs, parce que les flashballs c'est des balles en mousse. Là on a eu des tirs c'est comme des armes de guerre quoi. Donc dans nos rangs on a eu un collègue là qui est aux urgences. Depuis mercredi, il est toujours aux urgences. On a un collègue qui est ici, si vous pouvez le voir, il a l'arcade sourcilière qui est ouverte. Et moi, j'ai une pensée pour le camarade belge qui a perdu son œil et qui est toujours encore à l'hôpital à Strasbourg. Donc là, on a été reçus à Strasbourg comme des chiens, quoi. Jamais j'ai vu ça. C'est pour ça, d'ailleurs, la question que vous posez, droite ou gauche, il y en a qui disaient, mais sous la gauche là, c'est encore pire que la droite, quoi.
Les matraques, elles changent de couleur.
On est sorti du bus, on a été menottés, vous vous rendez compte ?
Par rapport à cette manifestation, ce que vous disiez, il y avait des blessés et tout. Il y a eu des blessés et tout. Comment, effectivement, là, ça peut se poursuivre en Belgique, justement ? Est-ce qu'il y aura d'autres manifestations aussi ?
Pour avoir discuté avec les Belges, aujourd'hui, ils sont à Bruxelles. Donc, les sidérurgistes belges sont à Bruxelles. Et à mon avis, sur les images qu'on va avoir ce soir, ça va être terrible. Parce qu'ils sont sortis de Strasbourg dans une colère, dans une rage. Et moi, je les comprends, quoi. Ils ont dit, quand ils manifestent en Belgique, c'est vrai que les Belges, c'est dur, faut les reconnaître. Mais quand ils manifestent en Belgique, ils ne sont jamais reçus comme ils ont été reçus en France. Parce que là, ils sont pas mal. Mais ils n'ont pas l'air méchants. Je peux vous dire qu'à Strasbourg, ils étaient méchants. Hein. Et ils ont attrapé des Belges, ils les ont pris, ils ne les ont pas relâchés. Nous aussi, on a eu des gens qui ont été menottés. Même à la CFDT, il y a des collègues qui ont été menottés. Donc ça a été vraiment très, très violent. Hein.
Oui, parce que je pense qu'il y a cette idée, ce qui peut faire un peu peur, mais on verra la suite, un peu, c'est la convergence des luttes. Effectivement, si au-delà du cas national, c'est effectivement en Europe, parce qu'on voit bien que les pays comme la Grèce, Portugal et tout ça, la situation est très très mauvaise, il faudrait que ça puisse aussi converger là-dessus. Est-ce que ça travaille aussi là-dessus, sur cette convergence ?
Ben nous, à la CGT, on est beaucoup avec l'OGBL, donc c'est le syndicat luxembourgeois. On est beaucoup avec la FGTV, donc le syndicat belge. On a des relations avec les syndicats espagnols et les syndicats italiens. C'est vrai qu'on a déjà fait plusieurs manifs européennes sidérurgiques, mais il faut aller plus loin, il faut aller plus loin.
Faut dépasser.
Parce que prenez le Luxembourg. Luxembourg, c'est vrai que nous, Mosellans, on a la chance d'avoir le Luxembourg à côté. C'est un petit peu un Eldorado, le Luxembourg. On a à peu près 150 000 frontaliers qui viennent travailler tous les jours au Luxembourg. Vous imaginez 150 000 ? Et la Lorraine, c'est une région des plus pauvres de France, où on a le plus de chômage, on a les usines qui ferment. Si on n'avait pas le Luxembourg à côté, mais ce qui se passe, c'est que le Luxembourg, aujourd'hui, eh ben, ils ont des problèmes. Ils ont des usines Arcelor à Luxembourg, où il y a Chifflange, il y a Rodange, Differdange, qui vont fermer. Parce que Mittal, comme je disais, c'est un prédateur. Il ne ferme pas qu'en France. Il ferme des hauts fourneaux en Pologne, en Tchécoslovaquie. Il a fermé en Italie, il est en Espagne, en France. Là, il ferme Liège. On parle beaucoup de Liège, on parle beaucoup de Florange. Mais c'est au niveau européen. Il est en train de faire mourir l'acier européen. C'est dommage parce qu'ils nous ont, pris la Carlita. On a un instrument, c'est un canon. C'est dommage qu'on ne l'a pas, parce qu'on va, le fabriquer là. Mais je peux vous dire que le canon qu'on a, c'est chaud. Hein. Mais bon, on a ramené quelques fumigènes, donc voilà. On est dans l'action quand même. Quoi.
Vous avez toujours travaillé à Arcelor?
Non, j'ai travaillé au Luxembourg. Après, j'ai été effectivement à Arcelor. J'ai donc travaillé la partie froide, la partie chaude. Et puis là, actuellement, je suis en détachement puisqu'il y a des discussions sur les reclassements. Et donc là, jusqu'au 31 mars, j'occupe un emploi. Mais après, on verra bien, quoi.
Ouais, c'est un peu l'incertitude, quoi.
Mais il y a le social et l'industriel. On se bat sur les deux. L'un va avec l'autre. Voilà. Pour ArcelorMittal, moi, je pense que ça va être très dur. Parce que si, en fermant la phase liquide, en fait venir des brames de Dunkerque, en faisant venir des brames de Dunkerque, on augmente les brames. C'est-à-dire, c'est des futures bobines et c'est le futur produit, quoi. Mais c'est le produit de départ. Et en faisant venir ça de Dunkerque, on augmente le prix de revient du produit puisqu'il y a le transport. Et à partir de là, de quelques temps, on va nous dire « Oui, mais c'est trop cher, donc il faudra arrêter le train à chaud. » Après, quand on aura fermé le train à chaud, on va dire « Oui, mais on fera venir des bobines directement au train à froid. » On nous dira « Mais oui, mais le coût du transport, c'est trop cher. » Et puis voilà, on nous enlève un morceau, un morceau, un morceau, un morceau, un morceau, puis c'est fini. Hein. Donc c'est pour ça que tant qu'on est là, qu'on est chaud, bah, il faut y aller, quoi.
Tant que le fer est chaud, il faut le battre.
Voilà, c'est ça. Vous avez tout dit, là.
Merci à vous. Bah,
de retour dans l'émission Au fond près du radiateur. Gros, gros big up à Joël pour les sons qu'on vient d'écouter. Donc, vous pourrez retrouver la suite un peu de ces reportages réalisés aujourd'hui même devant le siège de Goodyear à Rueil-Malmaison. Ce sera dans l'émission Zéro Hebdo juste après nous, 20h30, 21h30 sur la même antenne. Et vous pourrez écouter l'entièreté, la globalité de ce son avec toutes les remarques et les blagues de Joël. Vendredi, midi 30, 14h dans l'actu des luttes, voilà, toujours sur la même antenne. Simplement pour conclure sur ce sujet-là, ce qu'il faut finalement retenir de tout ça, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a du monde dans la rue en ce moment qui se bat pour ses droits, pour la dignité, pour pas perdre son emploi comme des chiens. Et ben, on continuera de relayer tout ça de la même manière qu'on le fait depuis des mois, des années. Et on s'écoute un petit peu de musique au fond près du radiateur et on vient tout de suite après pour parler avec un camarade de CQFD.
Philosophie de phare choc. Ce qu'on est devenu, on le doit à la hure. Tu sais, y'a que chez les enculés qu'il n'y a pas de tout pur. Du rap sale, des grosses voitures et des grosses coupures. On vient de l'école de ceux qui rappent dur sur des sons purs. Du troisième underground au sixième chaudron, sa carbure. Carré pur et son sécon, elle est pure et pourvu que ça dure. Rien ne peut ébranler notre foi, pas même les murs. Ça sent le parfum des années où tu ignorais cette culture.
Ton rap, on l'a mis haut, avec on fait du seyo. Je me raconte pas fort pour l'histoire, va voir un crio. On crie haut, Sam Favelas face de Rio. Dio, bon, du Zakat, pas en trio. Arsenic, C-C-A-L-P-O et Lino. À genoux, si tu me vois, c'est juste que je m'adresse au très haut. Avec brio, on a passé les épreuves du bloc. Troll d'époque, on écrit au scalpel et on slash au style.
Quel que soit la pensée, tu vas rester au contact. Sans les douilles, tu vas danser. C'est la cité des guns de chafrant. Tu ressens l'impact d'un bon son coup de tête. Tu ressens l'impact d'un bon son coup de tête. Quel que soit ta pensée, tu vas rester au contact. Sans les douilles, tu vas danser. C'est la cité des guns de chafrant. Tu ressens l'impact d'un bon son coup de tête. Tu ressens l'impact d'un bon son coup de tête. Voilà les têtes brûlées qui foncent tête. Baiser, c'est pour les têtes. Blesser un bon son coup de tête. Dominer ces zones d'ombre et ces démons. L'enjeu pété la compète, faut qu'on pète la compète. Rêve de mondanité, trop peu de solidarité. C'est déjà, c'est sec pour nos libertés. Du 9-5 au 7-7, un cocktail de bousillés. Scier tous les canons aiguisés, les chasses
à j'aime bien la vérité à boire, elle fait un petit trip. La France est sauvée, je brûle le district. Laisse une vitrine, fais les parts choquer. Braque l'industrie, pète le loquet du crime. Je rappe sur la scène, ok tu cries. Je viens croquer dans la batterie, je bien l'arsène. Je vis dans une cible, l'homme a éliminé. De la haine peut naître un génie ou un criminel. Un jour on paye la violence gratuite. Mes cicatrices sont là pour le prouver. Une rafale de perdu, dis douille de retrouver.
Quelle que soit la pensée, tu vas rester au contact. Sans les douilles,
vas danser, c'est la cité des gunshots froids.
Tu ressens l'impact d'un bon son coup de tête,
Tu ressens l'impact d'un bon son coup de fil
et profite. Quelle que soit ta pensée, tu vas rester au contact.
Tu sors les douilles, tu vas danser, c'est la cité des gunshots froids.
Tu ressens l'impact d'un bon son coup de tête.
Tu ressens l'impact d'un bon son coup de fil et profite.
Les chocs renforcent l'exemple de Mohamed Ali. Stop, soit tout le monde croque, soit tout le monde se foque. Personne bloque, qui complote. En cas de complot, entre potes, pas de froc. PC, arme, bloc. Tu provoques, tu peux glisser.
Philosophie de par soc, le rap game est blessé. Je vise la tête en plein centre, la gâchette est pressée. La vengeance est patiente, agresser les ondes saines. Philosophie du Jackson, les grandes douleurs sont muettes. Roma sur parole, tu peux une exception.
Ce sont une inspection, parce que de mortel on passe à déception. On va mettre ton rap à la diète, on a sa description. Enfoiré, maintenant c'est game, passe à la détection.
Venu pour terrasser, venu pour faire le job. Une réflexion pour une action, pire qu'un érixant. Prod ou acapella, dit qu'il a dit qu'il n'y a qu'un seul code, qu'un seul son, quelle que soit la sélection de ton iPod. Quelle que soit l'avancée, tu vas rester au contact. Sur les douilles, tu vas danser, c'est la cité des gunshots froids. Tu ressens la patte d'un bon son coup de tête,
Tu ressens la patte d'un bon son coup de tête,
quelle que soit ta pensée, tu vas rester au contact. Sur les douilles, tu vas danser, c'est la cité des gunshots froids. Tu ressens la patte d'un bon son coup de tête.
Tu ressens l'impact d'un bon son coup de fil, mais
quelle que soit l'avancée, tu vas rester au contact. Sur les douilles, tu vas danser, c'est la cité des gunshots froids.
Tu ressens l'impact d'un bon son coup de tête,
Tu ressens l'impact d'un bon son coup de fil, mais quelle que soit ta pensée, tu vas rester au contact. Sur les douilles, tu vas danser, c'est la cité des gunshots froids.
Tu ressens l'impact d'un bon son coup de tête,
Tu ressens l'impact d'un bon son coup de fil, mais
celle-là, c'est pour les blocs. Philosophie de par choc, de balles arsenées.
C'était Philosophie de par choc, de balles et arsenic sur l'album qui est sorti l'année dernière. Vous êtes de retour sur FPP 106.3 FM au fond près du radiateur. Et tout de suite, il y a Mathéo qui nous a rejoint du journal CQFD. Salut Mathéo. Et donc avec toi, on va évoquer la situation du journal, donc CQFD. Je te laisse présenter le journal, c'est un journal indépendant.
Voilà, ouais, on peut se définir comme ça, comme un journal indépendant qui a bientôt 10 ans. En avril, on fête les 10 ans du journal. C'est un journal qui a fait le pari il y a 10 ans d'être visible en kiosque. Donc qui a été confronté un peu à tout le monde de la distribution de presse en kiosque. On a essayé de se faire un peu notre place là-dedans et ça n'a jamais été très facile. Les collectifs qui animent CQFD, il y a plusieurs horizons. Il y a des gens qui viennent des problématiques antimilitaristes au départ. Hein. Il y avait un journal qui s'appelait Le Rire, qui était un journal de réfractaires. Et donc, en s'intéressant à la problématique des antimilitaristes, des ventes d'armes, etc., on est venu à celle de la presse, notamment, puisque la presse la presse officielle, la grande presse, est dans les mains de grands groupes industriels et certains de groupes d'armement, comme la Gardère et Dassault. Donc, l'antimilitarisme, des gens qui venaient des réseaux de soutien aux sans-papiers, des gens qui avaient qui avaient eu une expérience aussi dans le journalisme. Ou dans l'édition plus ou moins confidentielle, militante, etc. Donc ça fait un assemblage de gens comme ça qui ont voulu faire un journal comme ils avaient envie de le lire, quoi. On prétendait faire le journal qu'on avait envie de lire. Donc en élargissant toutes nos problématiques, en essayant de faire des enquêtes de terrain, des reportages, etc. Et donc depuis 10 ans, on tient. On a un chien rouge comme logo, comme symbole, comme mascotte. Et donc notre slogan, c'est un peu mordre et tenir, quoi. Un chien rouge qui a brisé ses chaînes. Donc voilà, on est basé à Marseille parce que ça s'est présenté comme ça. C'était bien de faire une presse un peu décentrée, décentralisée à ce moment-là. Et voilà, quoi. On peut s'enorgueillir de quelques thèmes abordés, notamment Oaxaca. On a traité de choses au Mexique sur la révolte de Oaxaca, un moment où les médias en parlaient pas. On a parlé comme ça de lutte un peu extérieure. Également Duran, le Robin des Bois des banques, qui avait escroqué des banques il y a quelques années, qui est passé en pensée hier, je crois, ou avant-hier, enfin assez récemment. Donc il y a plusieurs thèmes comme ça qui ont fait qu'on cherche. On cherche des voix dissidentes, on veut témoigner des luttes en cours, des luttes sociales, bien évidemment, des luttes paysannes contre les grosses machines, les gros rouleaux compresseurs du capitalisme. Et puis aussi, on veut témoigner des expérimentations, des expériences sociales, qu'elles soient microcosmiques ou qu'elle révèle une volonté plus grande, quoi, mais donc comme les trucs en autogestion, les squats, les librairies, les journaux, amis, voilà un peu le panorama du journal, quoi, enfin en tout cas les terrains de prédilection qu'on a développés depuis 10 ans.
Ok, donc vous êtes basé à Marseille, mais c'est un journal qui est diffusé sur toute la France.
Voilà, c'est diffusé nationalement, oui. Ouais. Ouais.
Et peut-être justement, on peut aujourd'hui vous lancer un appel en fait à soutien de la part des auditeurs.
Les auditeurs, c'est la radio.
C'est pour nous les auditeurs, ouais. Des lecteurs, c'est pour vous. Et donc voilà, si tu peux nous en dire un peu plus.
Bah voilà, c'est un journal bien évidemment qui est sans, il n'y a aucune banque derrière, il n'y a aucun groupe, il n'y a aucune subvention de presse même. C'est un journal qui reposait uniquement sur les ventes et les abonnements, donc sur les lecteurs. Hein. On n'a jamais eu d'autres revenus que ce qu'on a produit, en fait. Et puis on s'aperçoit que le temps aidant, on tire un peu la langue en ce moment, donc qu'il fallait relancer la machine si on voulait durer, si on voulait continuer, tout simplement, parce que voilà, notre trésorerie était commencé à être dans le rouge. Alors bon, c'est assez drôle à dire quand on pense aux titres de la presse comme Libé ou même l'Humanité, hein, qui sont sous perfusion et qui ont des millions de dettes et qui publient encore. Nous, on n'est pas sous perfusion, mais on voulait, comme il y a beaucoup de bénévolat, comme il y a beaucoup de, on y met beaucoup de nos personnes, on voulait avec cet appel. S'assurer quand même de la continuité du journal, quoi. Donc voilà, et les gens commencent à répondre, les gens se reconnaissent, les gens qui se reconnaissent en tout cas dans le titre font preuve d'une grande générosité. On est vraiment c'est bien engagé, on est assez touché par ces réponses, ce répondant là depuis une semaine. Et le prochain numéro exposera en une toutes les motivations de cet appel, quoi. Voilà.
Bah justement, là, vu que tu as la une du prochain numéro, il va sortir. Généralement, ils sortent le 15 du mois, c'est
voilà,
ça.
Voilà, c'est un mensuel. Il sort tous les 15 du mois. Et donc, c'est un numéro encore. Je vais présenter un peu ce qu'il y a dedans, hein, pour mettre l'eau à la bouche. On parle. On parle du Mali à travers l'angle le Mali considéré comme une vitrine de l'armement français, hein, des ventes d'armes, des rafales, etc. Ça a été pour l'État français une formidable vitrine pour vendre ses rafales, notamment à l'Inde, et rebooster en fait sa politique commerciale d'armement. Donc c'est un article qu'on trouvera dans le prochain numéro. On parle de la transhumance et de ces éleveurs qui résistent au puçage et plus généralement à l'espèce de monde machine qu'on nous annonce où tout, à travers la biométrie, les puces RFID, etc., tout va être mis sous contrôle de ces technologies-là. Dans un sujet un peu connexe, il y a un entretien avec Cédric Biagini qui a écrit un ouvrage à l'envolée sur l'emprise numérique. Donc sur les technologies, sur les conditionnements des technologies de plus en plus, enfin l'emprise de plus prégnante de ce conditionnement technologique, pardon, notamment à travers le livre, hein, les livres numériques, etc. Donc ça constitue un grand dossier. On reparle également de Notre-Dame des Landes. C'est une lutte qu'on suit évidemment depuis le début, en apportant différents éclairages à chaque fois. On évoque aussi les élections aux chambres d'agriculture, parce qu'on a un chroniqueur qui est dans le monde paysan, donc c'est pas une voix qu'on entend très très souvent, donc il parle un peu de ces chambres d'agriculture qui sont en fait à chaque fois qui élisent la FNSEA, donc il y a aussi une allusion à Xavier Belin, la FNSEA.
C'est le gros syndicat de paysans. Quoi.
C'est le gros syndicat de paysans qui valide tous les choix les plus industriels de l'agriculture, enfin du monde d'agriculture industrielle. On revient également sur Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture, qu'on vit en direct à Marseille comme...
Alors c'est chouette ou quoi ?
Ah oui, c'est formidable. C'est comme une grosse imposture culturelle et une espèce de cheval de Troie pour polisser la ville et puis présenter la culture à des gens qui ont plutôt des besoins un peu plus essentiels que d'aller voir David Guetta, par exemple. On vient d'octroyer 400 000 euros pour faire venir David Guetta. Enfin, la mairie de Marseille vient d'octroyer 400 000 euros pour enrichir David Guetta. Donc tous ces trucs-là,
Il y aura des places gratuites sur FPP, ouais.
Sûrement. Ouais. on revient sur une BD de Philippe Squarzoni qui parle du réchauffement climatique. On revient aussi, on a une rubrique qui s'appelle Vieux dossiers, qui est une espèce de rappel de moments historiques sur des grèves dans le Borinage belge en 1960, qui ont été des grandes grèves, les plus grandes grèves de l'après-guerre en Belgique, dans le bassin sidérurgique, et qui ont été des grèves très dures, quoi. Donc on refait un éclairage là-dessus. En gros, ce qu'on peut dire du prochain numéro.
Donc c'est le numéro 108, c'est ça ?
Voilà, c'est le numéro 108.
Et ça sort dans...
Ça sort vendredi.
Vendredi, là ?
Voilà, oui.
Ok.
Aujourd'hui, la question financière, quand même, pour la presse indépendante, comme le journal CQFD, ou même pour tous les médias indépendants, que ce soit pour nous, la radio, FPP... C'est une question, donc la question financière qui se pose énormément. Quand tu dis aujourd'hui vous êtes presque dans le rouge, c'est aussi une situation que vous avez connue il n'y a pas si longtemps que ça. Donc finalement, ça n'a pas grand lien avec la crise de la presse que la presse connaît quand tu parlais de Libé ou de ces autres journaux. C'est plus une chose qui est liée à notre façon aussi de concevoir ce qu'on fait. Aujourd'hui, c'est quoi aussi un peu, peut-être, je ne sais pas, selon toi, ce qui nous fera sortir de ces urgences qui se répètent en fait à chaque fois et qui font qu'on dépense énormément d'énergie dans le fait de trouver de la thune, quoi.
Ouais. Pardon, vas-y. Non.
Non, non, c'était juste que pour rappel, il y avait aussi La Brique, le journal lillois, qui était aussi dans le rouge depuis quelques mois. Il y a le mensuel Le Tigre aussi. Enfin voilà, il y a énormément de petits organes de presse indépendants là qui sont dans le rouge.
Oui, il y a un article sur le site d'article 11.info qui revient un peu sur le marasme des titres indépendants. Et alors, la solution, en ce moment, chacun essaie de l'avoir à sa porte. Donc, c'est vrai que c'est pas complètement une situation satisfaisante. Si on imagine qu'on pourrait développer plus de, je sais pas, un système un peu mutualiste de fédérer les énergies et trouver comme ça un mode de fonctionnement commun et solidaire. Alors ça reste à inventer parce que ces expériences-là sont contraignantes, demandent une organisation, etc. Donc nous, on est là, on est face à une crise qui est pas évidemment seulement celle de la crise papier, hein, mais qui est en partie aussi celle de la crise papier et du système de distribution de la presse en kiosque qui ponctionne de plus en plus les petits titres, hein, et pour laisser la place qu'au gros, enfin pour schématiser. Notre démarche, elle est aussi dans volonté de maintenir notre titre et après peut-être d'avoir plus de confort pour imaginer effectivement de développer des réseaux avec des titres amis, des émissions de radio, des systèmes comme ça de diffusion alternatifs, entre guillemets, d'infos, quoi.
Votre journal, là, CQFD, je vais y arriver. En fait, on peut le trouver en kiosque, mais tu disais, vous avez un diffuseur qui vous cause pas mal de problèmes aussi.
Alors, l'histoire qui s'est. Enfin, depuis un mois et demi, on a changé de diffuseur. C'est-à-dire qu'on était avant chez Prestalis, qui était un peu en position de monopole, et c'est les anciennes MPP, et qui faisait des conditions de plus en plus dures. À un titre comme le nôtre, c'est-à-dire en ponctionnant de plus en plus en la marge, quoi, en s'octroyant une marge de plus en plus grande par rapport à ce qu'on vendait. Donc on a fait le choix de changer de distributeur de presse pour aller chez son concurrent. On a fait jouer le marché, les MLP. Et ce qui a créé un problème, par exemple, par rapport aux lecteurs qui avaient l'habitude de trouver CQFD, qui étaient habitués à un kiosque, c'est que le transfert au MLP a fait que les kiosques ne sont pas forcément les mêmes. Donc il faut peut-être questionner le kiosquier, chercher au kiosque voisin, etc. C'est quelque chose qui nous, qu'on a un peu, qui nous a un peu, qui a peut-être nous a fait prendre de nouveaux lecteurs, si j'ose dire, mais il y a sûrement des lecteurs qui ont dû être déstabilisés de plus trouver le journal dans les kiosques, mais il est toujours diffusé, quoi.
Voilà. Et d'ailleurs, si on veut vous aider, en fait, j'ai cru comprendre qu'on pouvait aussi aller voir un kiosque qui avait pas ses QFD et essayer de lui demander de demander ce journal-là pour qu'il soit disponible dans son kiosque. C'est possible de.
Bien sûr. Alors c'est un peu compliqué. Normalement, c'est le boulot de notre distributeur, mais c'est vrai que le fait que les lecteurs demandent le journal, ça. Forcément, ça crée, ça crée une curiosité du kiosquier. Et éventuellement, ça, s'il est sympa, il peut commander des numéros, quoi.
Ce qui est sûr, c'est qu'on peut s'abonner. Voilà. C'est la principale source de vos revenus, quand même. C'est, donc ça, c'est un peu la campagne qui est lancée là. Aujourd'hui,
voilà.
Quoi.
Alors la campagne, c'est un appel à donation pour ceux qui peuvent. Et puis évidemment. À abonnement, puisque c'est comme ça qu'on constitue une trésorerie, quoi, trivialement.
Il y a une adresse
comment ça se passe
Alors l'adresse, c'est l'adresse du journal, hein, c'est donc CQFD, BP 70054, 13192 Marseille, CEDEX 20. Et les chèques sont adressés à l'ordre de RIR, comme le RIR, quoi. RIR CQFD, RIR/CQFD. Donc voilà, il y a un site CQFD-journal.org. Vous pouvez avoir toutes sortes d'informations aussi sur les moyens de venir en aide, ou même vous renseigner sur le journal, puisqu'on met les anciens articles, les articles des anciens numéros, on les met en ligne environ 2 mois après. Et donc ça permet aux gens aussi de nous connaître par Internet. Mais c'est vrai que nous, on tient à l'identité papier, hein, parce que c'est un journal aussi qui a du dessin. Et puis parce que bon, on trouve que avoir la matière papier, c'est souvent mieux que lire sur écran, quoi. Donc voilà.
Et juste peut-être pour nos auditeurs qui nous écouteraient derrière les murs des prisons, je crois que vous faites parvenir des journaux gratuitement là-bas.
Voilà, ouais. L'abonnement est gratuit pour les détenus.
Ouais. Ok, donc il faut envoyer un courrier.
Les gens de l'extérieur, généralement.
Peuvent se démerder pour faire rentrer.
Oui, normalement ils rentrent. Il y a toujours eu des complications dans cet univers-là, mais normalement ça rentre.
Ok, bah c'est bien de le savoir. Je sais pas, t'avais peut-être quelque chose à rajouter.
Bah non, je vous remercie de l'invitation.
Bah c'est cool en tout cas.
Moi j'avais juste une dernière question. Vous éditez des livres aussi?
Ah voilà, oui. On a édité quelques livres et on relance l'édition d'un livre qui était bien parti, qui est l'abrégé du Capital de Karl Marx. C'est un des premiers résumés populaires du livre 1 du Capital par un Italien, un anarchiste italien qui s'appelait Carlo Caffiero, quoi, à la fin du 19e siècle. Donc c'est un petit bouquin qui permet à la fois de rencontrer un peu cette période-là, les débats au sein de l'international, de la première internationale, et aussi d'avoir quelques outils de compréhension de l'analyse du capital, la critique de l'économie politique, quoi, par Marx.
Ok.
Et il sera disponible, pardon, dès début mars de cette année, quoi.
Ouais, il y a toutes les infos sur internet, j'imagine.
Ouais, et dans le prochain numéro de CQFD.
Dans le prochain numéro.
Ok, bon, on vous conseille d'aller vous renseigner sur le site internet cqfd.journal.org.
Ou mieux, d'aller l'acheter en kiosque, a priori, là, il y a besoin.
Et aussi.
Et ça veut dire quoi, CQFD? On l'a dit, je sais plus.
Non, je crois qu'on l'a pas dit.
C'est un peu l'interprétation de chacun. Non,
oui, voilà, ça peut vouloir dire ce qu'il faut détruire. À l'origine, on était peut-être un peu plus virulent, non, je rigole.
Plus radical.
Mais c'est aussi ce qu'il faut dire, développer. Voilà, c'est resté. C'est à l'interprétation de chacun, c'est encore ce qu'il y a de mieux, quoi.
Ok, bah c'est cool. En tout cas, on va profiter là, parce qu'on est juste sur la fin de l'émission, un peu speed pour laisser la place à Zéro Hebdo. De...
Juste avant, ouais.
Petite info quand même sur la fac de Saint-Denis.
Alors, à vous juste très rapidement, donc hier, il y avait l'inauguration des archives nationales qui sont en face de la fac de Saint-Denis. C'est François Hollande et consorts là qui sont venus inaugurer ça. Et donc, il y a le collectif des étudiants étrangers de Paris 8 qui en a profité pour essayer de dérouler une banderole sur le toit du restaurant universitaire qui fait face aux archives. Et ils se sont fait sauter dessus par tout un tas de mecs de la BAC, divers policiers en civil, etc., etc. Les membres du collectif se sont fait séquestrer dans le Crous pendant quelques temps, et puis un cordon de flics s'est déroulé devant l'université pour empêcher les étudiants solidaires d'aller manifester plus près des archives. Voilà, pour dénoncer la situation. Donc, suite à ça, il y a un appel à l'Assemblée Générale pour la semaine prochaine. Ça sera lundi prochain. Ça sera à 14h à l'Université Paris 8. Et le deuxième rendez-vous, c'est un appel à participer massivement à la journée qui est organisée par le collectif des étudiants étrangers pour la régularisation de tous les sans-papiers. Et ça sera mardi 19 février. Voilà, on essaye de vous tenir un peu plus au courant la semaine prochaine.
Ouais, en plus, c'est pas la première fois que des flics de la BAC interviennent de cette manière dans cette fac-là, quoi.
Que ce soit les flics de la BAC, que ce soit la sécurité, voilà, de plus en plus, là, il y a des coups de pression de tous les côtés.
Avec la complicité de la présidente de Paris 8, ouais, qui s'appelle Danielle Tartakovsky, qui est soi-disant... Ouais, qui est une historienne des mouvements sociaux. Mais bon, tant que c'est dans le passé, ça va, mais il ne faut pas que ça se passe maintenant.
C'est ça.
Voilà, nous, maintenant, on essaye d'être super clean au niveau de l'horaire pour les techniciens de FPP. On remercie d'ailleurs Nespuntas pour les lumières et tout ce qui va avec. On vous fait une grosse bise, on vous dit à la semaine prochaine, mardi 19, 20h30, sur la même antenne. On est rediffusé le vendredi matin de 7h à 8h30. Notre site internet, c'est www.aufondpresduradiateur.fr. On a une adresse mail aussi, c'est aufondpresduradiateur@no-log.org. On fait une grosse dédicace à tous ceux qui luttent, à tous ceux qui sont derrière les barreaux, à Zéro Hebdo qui prend le relais derrière et qui nous a aidés aussi pour cette émission. On leur fait une grosse bise et nous, c'est la semaine prochaine.
Et juste avant, une dédicace à Midi, à Mariam et à Merwan, le révolutionnaire aux cheveux inhumains.
Gardez-les.
Merci Mathéo de s'être avec nous ce soir. Ciao.